Bonjour, je suis Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec Johan Chardonnay et Fabrice Labeltrie. Alors peut-être, Johan, tu peux te présenter un peu?
Bonjour, donc Johan Chardonnay, j'ai travaillé récemment sur recherche sur Franck Malina. Mon parcours, c'est que je viens des études en journalisme scientifique au départ, puis j'ai tourné rapidement vers disons, l'art et la science et la technologie comme centre d'intérêt principal. Je travaille pour la presse, pour des catalogues, je fais du commissariat d'exposition et j'ai aussi une pratique artistique personnelle.
Très bien, Fabrice.
Bonjour, donc Fabrice Labeltrie, donc je suis un historien de l'art indépendant. J'ai donc obtenu un doctorat d'histoire de l'art sur Franck Malina, justement. Et depuis la fin de mon doctorat en 2010, je participe avec la famille Malina à toute l'activité autour de ce personnage tout à fait passionnant qui rassemble l'art, la science et bien d'autres choses.
Donc, je suis Roger Malina. Donc, en effet, je suis le fils aîné de Franck Malina. Alors, deux mots sur le parcours de mon père. Donc, il est né au Texas d'immigrés tchèques. Il a fait l'université à Texas A&M University au Texas en ingénierie mécanique. Et il est allé en Californie à l'université très connue Caltech, California Institute of Technology, où il a travaillé avec un chercheur très connu en hydrodynamique et aérodynamique, Theodor von Karman. Et le projet de thèse de mon père, c'était sur les premières fusées. Et donc, avec un groupe d'autres jeunes, ils ont lancé un groupe de recherche sur les fusées qui ont mené en 1945 le Wack Corporal, une fusée qui a atteint une très haute altitude. Mais après la guerre, il est venu en France, il a travaillé un peu à l'UNESCO, mais il est devenu artiste plasticien dans le mouvement, ce qui est connu maintenant sous le nom art cinétique. Donc il s'est beaucoup intéressé en effet aux relations art-science-technologie. Il a créé la revue Leonardo que je rédige depuis une trentaine d'années. Et donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un des personnages qui a même vraiment été très porteur, moteur, de créer des nouvelles formes culturelles qui puisent en effet sur les activités scientifiques et techniques d'aujourd'hui. Alors Fabrice, tu travailles en ce moment sur lui. Peut-être tu peux nous donner quelques idées sur ce qui t'intéresse dans tout ça.
Alors ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est justement de voir dans un esprit voir naître en fait un intérêt complètement multiple. Si je me souviens de quelques lettres qu'il écrivait à ses parents dans les années 30 quand il était justement à l'université du Texas, on voit de suite qu'il est très intéressé par la culture humaniste de la Renaissance. Il fait partie d'un groupe de discussion où il faut être coopté pour être intégré dans ce groupe et on voit que les discussions de ce groupe tournent autour de la situation mondiale, de la culture de la Renaissance, de cet humanisme qui a pour objectif de rassembler les compétences en un seul et même homme. Et ça, donc, on va le voir chez Franck Malina de manière vraiment très présente dès cette époque-là, où il va dessiner, mais aussi orienter ses études vers la mécanique et vers l'aéronautique. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un esprit peut surgir comme ça et se télescoper des domaines qui sont très différents. Et de ce télescopage, on voit apparaître évidemment une sorte de créativité qui a permis à Franck Malina de réaliser toutes ses prouesses à la fois au niveau scientifique et au niveau artistique.
Donc Johan, tu rentres récemment depuis de 3 mois de voyage aux États-Unis où tu as visité un nombre de lieux en Californie, en Nouveau-Mexique. Peut-être tu peux nous expliquer ce projet un peu.
Alors, je suis allé 3 mois, c'était dans le contexte d'une résidence avec l'Institut français, où mon objectif était d'aller sur les traces de Franck Malina, mais aussi de Jack Parsons, un de ses collègues, tout au début de son travail sur la fusée, et puis Tienne aussi, un autre collègue à lui, et de retracer un peu le contexte culturel et politique tourmenté de cette époque-là, puisqu'on est dans l'avant-guerre, d'abord, puis la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre, le macartisme qui intervient, et avec de jeunes ingénieurs, avec des velléités vers l'artistique, hein. Donc Frank Malina et Jack Parsons aussi vers le littéraire, et leur parcours dans un rôle historique majeur joué au niveau scientifique et technique, puisque ce sont la première fusée américaine est lancée par eux avant le programme développé avec des scientifiques allemands et par la suite la NASA. Donc leur rôle culturel, leur rôle historique déjà, et leur contexte culturel et politique qui m'intéressait beaucoup. Ce sont des années où ils sont quand même assez jeunes, entre 20 et 30 ans. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis de faire des analogies avec le contemporain, avec le développement du spatial privé aujourd'hui, qui donc toujours en Californie du Sud, dans le désert de Mojave et au Nouveau-Mexique. Donc ça m'intéressait d'aller sur les traces à la fois de l'histoire, des pionniers et du contemporain.
Bon, donc on va sauter en avant un peu, Fabrice, et donc peut-être parler des activités de mon père à Paris dans les années 50. Où en effet, il y a eu ce mouvement de l'art cinétique qui est apparu, qui s'est beaucoup répandu dans les années 60, et puis à peu près a disparu à la fin des années 70. Donc, parle-nous un peu des années 50 et du contexte de la naissance de l'art cinétique.
Alors, la naissance de l'art cinétique dans les années 50, en fait, elle est venue d'horizons multiples. On a des personnages qui viennent notamment d'Europe de l'Est, qui viennent à Paris, qui ont tous eu un enseignement issu de Bauhaus, où justement on s'intéressait à toute cette question du mouvement dès les années 20, dès les années 30. On a également toute une communauté de Sud-Américains qui, eux, également, ont reçu l'influence du Bauhaus via les États-Unis. Et ils sont tous venus dans ces années-là à Paris. Dans ce contexte-là, en fait, toutes les orientations artistiques ont... ces artistes-là se sont orientés vers des œuvres très graphiques, des œuvres qui petit à petit interrogent la notion de série, la notion d'illusion optique. On s'intéresse beaucoup à la nouvelle physique. On peut penser notamment à Vasarely qui lisait Heisenberg avec les principes d'incertitude. Et l'intérêt pour les sciences que l'on voyait déjà dans le Bauhaus en fait se retrouve au cœur des années 50 où on voit que le contexte aussi scientifique évolue beaucoup et très vite, et notamment la conquête spatiale.
Et dans ces groupes de gens, l'originalité de mon père, ça a été quoi ?
Alors, l'originalité, c'est déjà... lui vient d'un background scientifique. Il était ingénieur, ce qui n'était pas forcément le cas pour les autres. Ensuite...
Sauf peut-être Nicolas Schoeffer, je suppose.
Oui, voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Frank Malina a été l'un des premiers à Paris à proposer une œuvre aboutie et à intégrer aussi la lumière. C'est-à-dire que de nombreux artistes, et notamment Nicolas Schoeffer, se heurtaient à de nombreux problèmes techniques. Nicolas Schoeffer faisait appel à des ingénieurs de Philips pour développer ses œuvres. Frank Malina, lui, s'appuyait sur de jeunes étudiants en électronique pour l'aider à réaliser ses tableaux cinétiques. Et il a été, je pense, en tout cas, sauf preuve contraire, le premier à exposer une œuvre avec de la lumière à l'intérieur. On était en 1955.
Très bien. Alors donc, Yuen, en effet, tu as découvert en Californie, dans les années 20 et 30, qu'il y avait aussi des mouvements artistiques auxquels mon père n'a peut-être pas participé, mais qui sont des sources d'influence aussi sur tout ça.
Je suis allé visiter la collection de Thomas Wilfred à Los Angeles, qui est donc un artiste danois qui s'était installé aux États-Unis dans les années 20 et qui a été soutenu par un groupe de philanthropes proches de la théosophie qui s'appelait The Prometheans, et pour développer des œuvres d'art déjà cinétique, on pourrait dire, qui s'appelait la Clavilux, qui était donc synesthésique, parce que les groupes théosophiques s'intéressaient à ce qu'ils appelaient les formes pensées, ce qu'on retrouve dans les œuvres de Wilfred, où c'est des nuages un peu qui, en trois dimensions, comme ça, qui suggèrent une synesthésie. Donc il y avait cette idée de faire rejoindre tous les sens, hein, les visions, les musiques, et donc gestuelles, corporelles, etc., dans un seul et unique forme d'expression. On voit que Thomas Wilfred était aussi assez proche de Lev Theremin, qui développait aussi donc son instrument de musique déjà, mais qui impliquait aussi des mouvements chorégraphiques pour faire des plateaux pour la danse, qui pouvait, où le corps allait intervenir dans la musique. Donc il y avait tout un intérêt pour ces formes artistiques-là. Je m'intéresse à ça parce que je sais que Frank Malina a été assez influencé par le travail de Thomas Wilfred. On comprend pourquoi. Et donc j'étais aussi un peu à rechercher ce contexte-là d'émergence de la pratique artistique de Frank Malina. Quel contexte culturel pouvait favoriser ça?
Sauf que je crois que, alors tu me corrigeras, Fabrice, je crois que mon père n'a pas connu le travail de Wilfred avant les années 60, après qu'il a commencé son travail d'art cinétique. Parce qu'en effet, je ne suis pas sûr qu'il a été exposé.
Ce qui m'intéressait, c'est que oui, je savais qu'il n'avait pas forcément connu Wilfred avant de lui-même d'entrer dans une pratique. Qu'il a rencontré quand même assez tôt Wilfred dans sa pratique artistique. Ils se sont vus. Je crois qu'en 61, il est allé le rendre visite à New York. Oui. Et donc, il en avait information. Mais la démarche philosophique, esthétique et scientifique qui amène à une pratique cinétique ou synesthésique et d'où elle peut venir. Et donc, j'ai été chercher le contexte culturel de la jeunesse de Frank Malina des années 30-40 en Californie, où il y a une certaine forme de culture qui est présente plus que d'autres. Et donc, notamment, c'est cette culture qui est, disons, la théosophie, mais pas que, enfin, toute une dimension de nouvelle spiritualité qui pouvait être présente en Californie dans les années 30, avec des écrivains comme Aldous Huxley qui venaient d'Europe à ce moment-là, ou des
auteurs de science-fiction.
Des auteurs de science-fiction des jeunes auteurs de science-fiction qui émergeaient en parallèlement au cinéma.
Oui, le cinéma expérimental.
Le cinéma expérimental qui émergeait également, où Thomas Wilfred a eu une influence sur le cinéma expérimental aussi. Donc, on va essayer de comprendre un peu le contexte d'émergence. Et on voit dans les lettres de Frank Malina qu'il s'intéresse aux relations art et science très tôt.
Et à la visualisation de la musique, hein, au moment de la sortie de Fantasia en 1940, si je ne me trompe pas, ou en tout cas aux États-Unis, effectivement, dans une lettre, il raconte qu'il a été voir Fantasia, ce dessin animé qui visualise la musique, hein, entre guillemets, mais voilà, donc on sent bien que cette expression ne sort pas de nulle part. Visualiser la musique, c'est tout ce... toute cette présence de Oscar Fischinger qui avait fait déjà ça en Allemagne avant de s'expatrier et de tous ces gens effectivement qui ont participé ou qui ont tenté de créer des machines cinétiques. Moi je pense à Stanton McDonald Wright qui est un Américain qui est venu s'installer d'abord à Paris dans les années 10 puis qui est revenu avec Morgan Russell. Morgan Russell, lui, est resté à New York et McDonald Wright, lui, est venu en Californie pour tenter de créer une kinetic machine. Donc voilà.
Donc en effet, là, on vient de soulever deux aspects de l'hybridité, si vous voulez, de Frank Malina. D'abord, en effet, cet intérêt d'allier art et science de façon nouvelle, mais en effet, ses parents étaient tous les deux musiciens. Donc il a certainement grandi dans une maison où il y avait de la musique tout le temps. Et en effet, il a toujours eu un intérêt sur des formes d'art hybrides, où en effet, on mélangeait le son et l'image de façon nouvelle, utilisant les nouvelles technologies disponibles à l'artiste. Alors, malheureusement, il va falloir s'arrêter là. Donc, merci Yoann, merci Fabrice. À la prochaine.